Allons, si vous voulez bien, regagner vos places, nous allons recommencer. L'idée d'égalité dans les révolutions américaines et françaises s'est structurée autour de trois grandes idées qui ont été communes dans les deux pays. L'idée de faire advenir un monde de semblables, l'idée de développer une société d'individus autonomes, en deuxième lieu, et en troisième lieu, de réaliser une communauté de citoyens. C'est en France, bien sûr, que l'idée de constituer un monde de semblables était la plus évidemment dessinée. Car s'il y a une chose qui s'opposait au monde de semblables, c'est bien la figure du privilégié. Le privilégié, disait Sieyès, se considère comme faisant un ordre à part, comme étant une nation dans la nation. Ils en viennent véritablement à se considérer comme une autre espèce d'homme. Et on sait que ce sont ces mots de Sieyès que reprendra un demi-siècle plus tard, Tocqueville, pour comprendre le monde aristocratique. En une célèbre formule de la démocratie en Amérique, parlant des aristocrates, il dira « Leur problème, c'est que à peine ils croient faire partie de la même humanité. » D'où, à l'inverse, la définition tocquevillienne de la démocratie comme société de semblables. Ce n'est pas seulement une définition tocquevillienne, c'était la définition, je dirais, commune au moment de la Révolution française. Et on ne peut vraiment comprendre l'esprit de 1789 vis-à-vis de cette question de la similarité que si on prend la mesure complète de ce qu'était l'esprit de distinction qui animait la noblesse à l'époque. Depuis le XVIe siècle au moins, en effet, la noblesse se considérait ouvertement comme constituant, c'est l'expression qui était employée à l'époque, une race à part. Mais le terme de race devait alors être entendu dans un sens différent de celui que nous connaissons maintenant. Le terme de race, à l'époque, il était synonyme de lignée, il était synonyme d'extraction, et c'était typiquement un mot de la langue aristocratique, mais sans comporter nullement de référence à des distinctions d'ordre physiologique ou ethnique. Mais il renvoyait bien pourtant à l'idée de qualité sociale qui pouvait se transmettre héréditairement par le sang. C'était une reproduction sociale de qualité, la race. Et les nobles étaient ainsi persuadés que leurs enfants avaient des capacités innées à diriger la société. Ils appréhendaient de cette façon les lignées comme de véritables êtres de nature, dont la personnalité sociale avait un fondement quasi-biologique, expliquant la continuité de leurs traits entre les générations. Et cette idée de race aristocratique fondait ainsi une vision hiérarchique du monde dans laquelle les distinctions de conditions trouvaient leur origine dans des différences intrinsèques de qualité. C'était une vision qui ne cessera de rester stable du XVIe siècle à la Révolution française dans le monde aristocratique. Et elle imposera à ces hommes comme une évidence issue d'un mode de perception spontané qui les amenait à lire dans la diversité apparemment contingente des groupes sociaux une hiérarchie préordonnée d'espèces socio-naturelles. Ils pensaient, ces aristocrates, voir autant de sortes d'hommes que de conditions sociales, tous participant d'une même nature, mais héréditairement différenciés par leur comportement et leurs valeurs humaines inégales. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que la notion d'égalité des conditions a été employée pour la première fois dans le langage juridique du XVIIe siècle pour montrer justement ce qu'était l'exemple d'une société désordonnée. Une société désordonnée est une société qui ne respecte plus la distinction des conditions. Et une société d'égalité des conditions serait justement une société devenu anarchique. Cette définition réapparaîtra ensuite, dans des circonstances que je rappellerai tout à l'heure, plus tard. Et ça a été cette question au cœur de bien des discussions entre historiens au XIXe siècle sur les véritables origines de la noblesse française et sur le sens de la distinction de race. Et il est frappant de constater qu'encore pendant la Révolution, à un moment où il y aura toute une discussion sur justement l'utilisation des armoiries, etc., Louis XVI tiendra à souligner, dans un message à l'Assemblée, ce qu'il appellera l'ancienneté et la continuité des services d'une race honorée. Donc Louis XVI lui-même, à l'Assemblée constituante, aura employé cette expression. Et c'est bien cette expression que l'Assemblée constituante voudra bien sûr clouer au pilori. Et ce sera détruire toutes les traductions concrètes de cette vision en termes de privilèges fiscaux, de droits exclusifs ou de barrières professionnelles. Et le décret du 4 août symbolisera bien sûr cette entreprise en opérant, selon la formule consacrée de l'abbé Grégoire, un grand abatis dans l'immense forêt des abus. Mais on ne peut cependant en rester là pour caractériser l'esprit d'égalité qui marque la période. L'aspiration à constituer une société des semblables est en effet loin de se limiter à la dénonciation des manifestations les plus outrancières de l'ordre aristocratique. D'ailleurs, quand il dénonce l'univers des privilèges, un sieyès n'instruit pas simplement le procès des exemptions légales ou des élucubrations historiques. Il se livre à une critique plus sensible et plus globale des prétentions sociales à la supériorité et à la distinction. Et le terme de « privilégié » s'étend en fait pour lui à tous ceux qui estiment qu'ils ne sont, je le cite, « qu'ils ne sont point faits pour être confondus, qu'ils ne sont point faits pour être côte à côte, qu'ils ne sont point faits pour se trouver ensemble. » Et c'est une propension multiforme, justement, à l'isolement, au séparatisme, qui est visée à travers cette critique. Et l'invention du terme d'aristocrate datera significativement de cette période pour ramasser en une seule formule les différentes appréhensions de cette vision du séparatisme et de la sécession sociale ou de la considération, des considérations de mépris qui étaient liées à l'ordre aristocratique. Et c'est d'ailleurs cette vision élargie de la notion de privilège qui explique que la stigmatisation de l'aristocratie ait été aussi structurante en Amérique qu'elle a été en France, alors même que l'Amérique coloniale n'avait pas de noblesse. C'est une chose que l'historien américain Gordon Wood a très bien montré, c'est que le rejet du sentiment aristocratique, considéré comme le sentiment hiérarchique, le sentiment de déférence, le sentiment de distinction, avait été au cœur de la Révolution américaine. Et on verra de façon similaire aux États-Unis employer très souvent de façon péjorative l'expression de gentilshomme pour dénoncer cette forme de prétention à la supériorité. D'où vient ce sens de la similarité révolutionnaire ? Cette sens de la similarité révolutionnaire, elle a été liée avec évidence, on y a souvent insisté, à l'héritage chrétien et aux théories du droit naturel. Mais il y a aussi deux autres facteurs absolument essentiels qui vont contribuer à ce qu'on pourrait appeler cette révolution de la similarité. D'abord, il y a une appréhension que l'on peut qualifier d'anthropologique, et une seconde que l'on peut dire sociologique. La révolution de la vision anthropologique, c'est bien sûr Buffon qui l'exprime dans son Histoire naturelle, quand en 1749, il publie son premier volume, De la nature de l'homme. Buffon montre que l'identité de l'espèce humaine est un fait matériel, et ça va être une objectivation qui va conduire à une rééducation du regard et de l'entendement. qui va tendre à minimiser la portée des différences entre les hommes, entre l'homme policé et l'homme sauvage même, comme entre les différentes variétés d'humains sur le globe. Justement, dans son chapitre « Variété de l'espèce humaine » qui clôt l'essai, Buffon explique que les différences physiques, d'apparence, de couleur, de peau, résultent seulement de causes accidentelles et extérieures, et qu'elles n'ont rien d'essentiel, et qu'elles doivent donc être considérées comme susceptibles de nouvelles évolutions, et même qu'elles sont potentiellement réversibles. Et en soulignant que le genre humain est un, il va montrer que la diversification n'a jamais été que circonstancielle. Il va inviter pour cela à penser la catégorie d'espèce à partir de la notion de similarité. Et il va emprunter sur ce point la définition de la similitude à Leibniz pour dire que si c'est l'identité de quantité qui fait l'égalité, c'est l'identité de qualité qui définit la similarité. Et donc, l'identité de qualité des hommes en fait des semblables. D'un autre côté, il y a aussi une variable sociologique qui facilitera la perception d'une société des semblables, c'est tout simplement l'avènement de l'individu. L'avènement de l'individu a en effet pour conséquence de rompre avec la vision d'une société organique ou disons d'une société holiste dans laquelle c'est le rapport d'identification à des ensembles donnés forcément structurés qui est essentiel. Sociétés qui sont segmentées en castes, en ordres, en états, etc. Mais les sous-ensembles que présentent ces sociétés sont, eux, toujours considérés comme homogènes. D'où d'ailleurs cette grande question sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir, sur le sentiment d'égalité dans le monde aristocratique. Entre un grand seigneur et un petit seigneur, il y a pour cela une forme de sentiment d'égalité et de grande différence avec les autres, alors même que ces distinctions à l'intérieur du monde aristocratique peuvent être beaucoup plus fortes que celles, bien sûr, qui séparent un petit seigneur d'un grand bourgeois. Et la rupture décisive qu'introduit la modernité individualiste dans cet état de choses est celle de la complexification et de la diversification. Les sociétés sont devenues de plus en plus hétérogènes et les variations individuelles, pour reprendre le langage de Buffon, y apparaissent plus marquées et plus sensibles, ce qui a transformé complètement les modalités de constitution des identités individuelles et des appartenances sociales. Le monde d'individus avait besoin de penser ce qu'il y a de commun entre les hommes sur un mode extrêmement différent que le sens de la communauté dans une société holiste. Et c'est cette façon de penser le commun qui va être apportée aussi par la notion de similarité. En Amérique comme en Europe, donc, l'égalité se définit comme l'avènement d'un monde de semblables. Mais l'égalité va aussi se définir, en deuxième lieu, comme l'avènement d'une société d'individus autonomes. C'est Rabault-Saint-Étienne, dans les idées sur les bases de toute constitution, qui dira « On pose pour principe, dans la formation d'une société, que tous les hommes qui y entrent sont égaux. » On ne veut pas dire par là, poursuit-il, qu'ils sont tous égaux de taille, de talent, d'industrie, de richesse, ce qui serait absurde, mais ils sont tous égaux en liberté. Cette notion d'égalité en liberté est absolument fondamentale, car elle montre bien comment l'idée de société des égaux renvoie dans ce cas à une forme de relation sociale, à un type de société dans lequel nul n'est soumis à la volonté d'autrui, dans laquelle tous peuvent conserver leur autonomie. Et cette autonomie ne se confond pas avec un individualisme qui serait compris comme un état de séparation vis-à-vis d'autrui. L'autonomie n'est pas un attribut individuel. Elle ne prend sens, en effet, qu'en tant que capacité sociale. Être autonome, c'est pouvoir inventer sa vie, exister comme sujet responsable de lui-même. Et l'autonomie individuelle implique donc une garantie sociale. Elle ne peut se déployer que dans une société qui bannit toutes les dépendances. Et c'est donc seule une société d'individus indépendants qui fait sens dans un univers de liberté. Elle s'inscrit nécessairement dans ce qu'on pourrait qualifier de réciprocité active. Une telle appréhension de l'égalité comme réciprocité active était d'ailleurs au cœur de l'idée rousseauiste. Commentant Rousseau, un de ses plus profonds commentateurs, qui est Jean Starobinski, dira que ce qui caractérise la vision de l'égalité chez Rousseau, c'est celle d'un monde régi par ce qu'il appelle la réciprocité des consciences libres. Et l'égalité, de cette façon, est celle, pourrait-on dire, pour employer un langage du XVIIIe siècle, celle d'un commerce humain, véritablement libre. Et la perspective d'une égalité-liberté de cette nature a en fait constitué la matrice historique de l'aspiration des modernes à une vie émancipée. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'elle s'est identifiée au combat contre ce qui apparaît comme la négation radicale de l'autonomie, à savoir la situation d'esclavage. Il est frappant de voir, dans la littérature politique du XVIIIe siècle, la place qu'a la dénonciation de l'esclavage. Mais il est frappant de constater en même temps que ce que l'on dénonce, ce n'est pas vraiment l'esclavage de plantation. Ce que l'on dénonce, c'est l'esclavage politique dans les monarchies absolues. Si vous regardez l'article « Esclavage » de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, c'est un article extrêmement long, mais cet article ne consacre qu'une petite colonne à l'esclavage des colonies. En revanche, il consacre des pages et des pages à la situation d'esclaves politiques dans laquelle se trouvent les sujets des monarchies absolues. Cette dénomination, d'ailleurs, cette considération de l'esclave comme une figure de la dépendance politique continuera après la Révolution. Dans toute la littérature des années 1830, la littérature de la critique de la condition ouvrière, la littérature de la critique surtout de l'absence de suffrage universel, eh bien c'est encore le terme d'esclave qui reviendra. On a republié ces jours-ci, je le lisais ce week-end dans le Times Literary Supplement, un universitaire a retrouvé les modèles de chansons qui avaient été collectés par les chartistes dans l'Angleterre de la fin des années 1830. Et dans ces modèles de chansons qui étaient destinés à être imprimés dans des petites brochures répandues de façon populaire, revenait de façon insistante aussi cette notion que l'anglais est un esclave. L'anglais est un esclave parce que justement, il est privé de droit à la parole politique. Il est un esclave parce qu'il ne participe pas, il n'est pas un participant de ce commerce humain véritablement libre. Si j'emploie cette expression de commerce humain véritablement libre, c'est que l'on peut dire que la vision du marché a été à l'époque considérée comme un modèle, d'une certaine façon, de cette égalité, de la réciprocité des consciences libres. Être l'égal d'autrui signifiait se trouver avec lui dans un rapport de libre-échange, c'est-à-dire de réciprocité, car c'est une égalité d'ordre commutatif, pour employer l'expression traditionnelle. En échangeant le fruit de leur travail, c'est leur condition d'égaux en indépendance que les hommes affirment, et leur relation d'égaux en interdépendance à laquelle ils donnent vie. Et c'est pour cela que l'on fera la critique de tout ce qui s'oppose à cette égalité en indépendance, à cette égalité en interdépendance, les corporations, par exemple, pour le modèle français, ou l'ensemble des statuts d'apprentissage en Grande-Bretagne, voire les longs chapitres qu'Adam Smith consacre dans La richesse des nations à la critique des statuts d'apprentissage. Et cette vision émancipatrice du marché s'affirmait alors aussi bien sous les espèces d'une indépendance, d'une aspiration à l'indépendance du travailleur, ce qui était le cas en Amérique où le travail indépendant était très largement dominant, que sous les espèces d'une libération du travail lorsqu'il était corseté par des règlements comme en Europe sous le mode anglais ou sous le mode français. Pour comprendre cette idée d'une égalité de marché, d'une vision de l'égalité des consciences libres comme étant celle, je dirais, de la liberté, égalité définissant la société civile, on ne peut le comprendre qu'en relation avec ce qu'on a appelé le libéralisme optimiste de la période. Je pense qu'on ne peut comprendre le XVIIIe siècle que si l'on voit bien que toute la littérature, et dont Adam Smith est un exemple, il y a un autre grand exemple français, ce serait Vincent de Gournay, qui montre bien que cette vision du libéralisme comme l'instauration, enfin, d'un régime économique qui promeut l'égalité dans la société civile, qui promeut le commerce libre des hommes. Et on ne comprend pas l'esprit de la Révolution française, j'en redirai un mot, si l'on ne prend pas en compte le fait que la vision du libéralisme est inscrite dans une perception précapitaliste de l'économie. Cette conception précapitaliste de l'économie est une variable, à la fois en Amérique et en France, extrêmement importante pour comprendre l'esprit de la Révolution. Et cette variable est d'autant plus importante à prendre en compte qu'elle se lie d'une certaine façon à une apologie de la frugalité, à une apologie de la modération de consommation. La grande idée qui avait traversé tout la deuxième moitié, en tout cas, du XVIIIe siècle, c'est que le luxe était l'ennemi de la République. Et qu'est-ce que le luxe, si ce n'est justement, en quelque sorte, une forme d'économie qui n'est pas dominée, une forme d'économie qui s'emporte, alors que la République, dans une perspective que l'on peut dire là extrêmement classique, la République, elle est liée à ses sentiments de frugalité. Et c'était une vision extrêmement importante, par exemple, dans toute l'économie politique et la philosophie morale des Lumières écossaises. Cette idée de frugalité, elle est absolument essentielle chez Adam Smith. On ne peut pas comprendre la richesse des nations et moins encore la théorie des sentiments moraux si on ne prend pas cet élément en compte. Et même celui qui apparaîtra en Amérique comme le père fondateur de la vision américaine du citoyen industrieux, activé d'un point de vue économique et soucieux de sa propriété et de ses intérêts, Benjamin Franklin. Même Benjamin Franklin, dans la science du bonhomme Richard, sera en quelque sorte le livre de chevet, je dirais, des colons américains dans la période qui précède immédiatement l'indépendance. Même un Benjamin Franklin ne cessera d'insister sur le fait que l'Amérique doit être aussi le pays marqué par une certaine frugalité et une limitation des sentiments économiques. Donc, cette égalité considérée comme une réciprocité des consciences libres, une égalité réciprocité dont le marché pouvait, à l'époque, donner une idée positive, a été la deuxième grande caractéristique de ce monde révolutionnaire de l'égalité. La troisième caractéristique, c'est que l'égalité est vécue comme une égalité de participation. C'est celle de la concitoyenneté. Là, il y a peut-être une distinction entre le modèle américain et le modèle français. C'est que le modèle américain de la citoyenneté, tel qu'il est vécu dans les années 1770 à 1800, disons, en tout cas à 1790, est un modèle de la citoyenneté qui est toujours rapporté à la communauté immédiate, celle du township, la communauté directement sensible de la vie partagée, et non pas la citoyenneté plus lointaine. Être citoyen, c'était être celui qui vivait avec ses proches, et non pas celui qui se définissait d'abord par une identité globale. Ce qui explique d'ailleurs une chose fondamentale au droit public américain, c'est que le droit de vote aux États-Unis n'a jamais été un droit fédéral. Le droit de vote aux États-Unis a toujours été, et reste toujours aujourd'hui encore, les conditions d'exercice du suffrage universel ne sont pas les mêmes dans les différents États américains. Alors, bien sûr, depuis 1965, on a interdit que ce droit, par exemple, soit défini de telle façon qu'il empêche les Noirs de voter, comme il y avait par exemple les literacy tests ou les grandfather clauses. Mais aujourd'hui encore, certaines catégories n'ont pas le droit de voter dans certains États alors qu'elles le peuvent. C'est le cas par exemple du droit de vote des personnes qui ont eu des troubles mentaux. C'est le cas notamment des personnes qui ont connu des peines d'emprisonnement. C'est-à-dire que là, c'est le cas également des conditions de domicile ou des conditions de durée de présence sur un territoire. Dans le détail, le droit de vote reste encore différencié aux États-Unis, c'est très important. Et il est très important de concevoir que l'idée du suffrage universel a été aux États-Unis une idée qui ne s'est pas du tout développée sur le mode français. Aux États-Unis, le suffrage universel s'est mis en place comme une sorte d'extension progressive du droit ancien dans la communauté coloniale, parce que au temps des colonies, on votait aux États-Unis, mais c'était comme en France, un vote local, c'était un vote de communauté locale. Et ce vote de communauté locale, eh bien, c'est celui qui a donné la matrice de l'extension du droit de suffrage aux États-Unis, et notamment donc un droit de suffrage qui était lié pendant très longtemps à des property requirements, c'est-à-dire qu'il était lié à des conditions de paiement d'impôts ou de volume de propriété que l'on avait. Donc, quand on parle de communauté des citoyens, autant en termes de vision de la société des semblables et de la société des individus autonomes, le modèle américain et le modèle français sont beaucoup plus proches que qu'on a voulu le dire, et je crois que c'est la grande contribution d'historiens comme Bailyn ou Gordon Wood d'avoir insisté au contraire sur ce que Wood a appelé le radicalisme de la Révolution américaine, pour la rapprocher, je dirais, dans ses grands thèmes et dans les visions qu'elle portait de la vision française. Là, en revanche, dans la production d'une communauté citoyenne fondée sur la concitoyenneté, il y a une différence indéniable. Dans tous les cas, cependant, la vision d'une concitoyenneté est bien celle d'une égalité qui s'exprime sur un troisième mode, c'est sur le mode d'une inclusion. C'est une mode de participation. L'égalité n'est plus une équivalence de position, elle n'est plus une pratique de l'interaction, elle devient une modalité de l'inclusion et de la participation. Et c'est pour cela que cette figure de l'égalité, elle est à la fois de l'ordre d'une mesure et d'une relation. Et c'est ce qui fait la spécificité et la centralité du suffrage universel. Il est à la fois la reconnaissance de l'individu égalité, un homme, une voix, et manifestation de l'individu communauté, participant au cœur politique d'ensemble. Égalité de l'individu, car le propre du bulletin de vote, c'est d'uniformiser les arguments et les intentions, de les réduire à une donnée objective et calculable. Ce que fait le bulletin de vote, c'est qu'il donne un langage commun à des expressions totalement hétérogènes. De ce point de vue-là, il simplifie radicalement le monde social. Car dans le bulletin de vote, les raisons et les passions sont ramenées à une mesure uniforme. Il n'y a ni hiérarchie de connaissances ou de talents, ni considération de motivation qui importe. Au final, un simple décompte, qui est la résultante mécanique et totalement dépersonnalisée de l'expression de chacun. Et l'égalité de l'individu citoyen procède là, tout simplement, du fait que l'on compte les voix et qu'on ne les pèse pas. À l'inverse de ce qu'a toujours voulu faire le suffrage censitaire. Et tous les critères ordinaires de l'évaluation de l'action des hommes et des femmes et de la légitimité à prendre des décisions se trouvent donc là suspendus. Et le citoyen, le porteur de vote, s'appréhende comme un individu qui est détaché de toutes ses spécificités. Et l'égalité est fondée justement sur cette indistinction de l'électeur. Chez Yes disait, le droit à se faire représenter n'appartient aux citoyens qu'à cause des qualités qui leur sont communes et non pas à cause de celles qui les différencient. C'est donc en espèce de citoyen et non pas autrement qu'ils peuvent voter. Le citoyen, pour le dire avec un autre langage, est la figure de la généralité qu'il y a en chaque individu. Il est rapporté à une sorte de point zéro de la socialité. Et dans le moment de l'exercice du suffrage, chaque individu se trouve dépouillé de ses déterminations et de ses appartenances pour être un pur et simple membre du souverain. Et alors, l'abstraction est la qualité qui le constitue socialement et sert sur ce mode de ressort au développement de l'idée d'égalité politique. Et cela tient au fait que le grand savant et l'esprit le plus simple, le riche et le pauvre, sont considérés comme également capables de penser au bien commun et de dire ce qu'ils considèrent comme juste ou injuste. Et l'avènement du suffrage universel a opéré pour cela une révolution majeure. Sa mise en œuvre n'a pas simplement ouvert une nouvelle étape dans le processus d'émancipation de l'humanité, elle a marqué, pour cette raison, une rupture qualitative décisive. Ça n'est pas une conquête formelle, mais au contraire, la plus substantielle des conquêtes, car elle a inscrit l'imaginaire collectif dans un nouvel horizon, celui d'une équivalence à la fois matérielle et radicale entre les hommes. On peut dire qu'il s'agit d'un droit constituant, c'est-à-dire d'un droit qui produit la société elle-même, car c'est l'équivalence qui constitue dans ce cas la société. Il y a pour cette raison une spécificité proprement sociologique de l'ordre démocratique. Dans le cas français, cette vision de l'individu citoyen s'est aussi liée à quelque chose de très fort. C'est le fait que la citoyenneté n'est pas simplement un exercice individuel, celui du droit de vote, mais que la citoyenneté est une pratique sociale. La citoyenneté est une pratique sociale à travers plusieurs dispositifs. D'abord, un dispositif technique très simple, c'est que le vote, pendant toute la période révolutionnaire, est un vote d'assemblée. Pour nous, aujourd'hui, voter, c'est se rendre de façon individuelle dans un bureau de vote, se placer dans un isoloir, y mettre son bulletin et repartir. Donc, l'exercice du droit de vote ne se lie à aucune participation sociale, à aucun échange de paroles sociales. Ce n'était pas le cas pendant la période de la Révolution française, et ce ne sera pas le cas d'ailleurs non plus pendant la période du suffrage censitaire et en 1848. Pendant toute la période révolutionnaire, en effet, le vote se pratique dans les assemblées primaires. Et les assemblées primaires, ce sont des regroupements de citoyens organisés sur la base à peu près d'un groupe qui atteint un maximum de 1000 personnes, et très rarement moins de 400. Et dans les villes, c'est partout des regroupements de 1000 personnes. Quand c'est à la campagne, si l'habitat est diffus, eh bien on ne va jamais en-delà de 400. C'est-à-dire que voter est toujours participer à une assemblée qui se réunit au moins pendant 2 jours. Donc c'est vivre et parler avec un ensemble de gens pendant une certaine période. Au temps de la monarchie censitaire, on emploiera d'ailleurs pour cela le terme de collège électoral. Le collège, c'est-à-dire qu'on forme une instance collégiale. Instance collégiale qui est, au moment du suffrage censitaire, donc par définition, il y avait beaucoup moins d'électeurs. Et pour cela, c'était au chef-lieu d'arrondissement qu'on se retrouvait. Mais on se déplaçait au chef-lieu d'arrondissement pour, pendant au moins une journée, réunir le collège électoral. Et donc, c'est un lieu de vie sociale, c'est un lieu d'échange. Et de la même façon, les assemblées primaires étaient un endroit de vie sociale et un endroit d'échange. Et bien des témoignages de l'époque montrent l'importance qu'ont eu dans la production de la citoyenneté en France la participation à ces assemblées primaires, c'est-à-dire d'avoir le sentiment que on était côte à côte avec des personnes différentes et que même si ces personnes n'avaient pas le même métier, si elles n'étaient pas originaires du même village, les gens pouvaient porter les uns sur les autres un regard tout à fait différent. Et que ce regard différent était inscrit dans le fait que le bureau de l'Assemblée, c'est-à-dire de l'Assemblée primaire, c'est-à-dire l'organisation du fonctionnement de cette Assemblée, était élu. Et le président pour mettre en place l'organisation matérielle de ce bureau de l'Assemblée primaire était simplement le plus âgé de l'Assemblée. Et après, on élisait. Donc il y avait même dans la pratique de la vie commune et de la discussion déjà une forme de type démocratique. Il y a une deuxième façon d'expérimenter en quelque sorte la citoyenneté comme pratique de la vie commune qui jouera un rôle très important en France, c'est bien sûr le développement des fêtes civiques et leur contribution à la construction d'un imaginaire démocratique. D'ailleurs, la Constitution elle-même considérera qu'un des rôles des fêtes est de produire l'esprit civique. Et les fêtes, effectivement, est une sorte de propédeutique de l'égalité, car elles rassemblaient tous ceux que les circonstances de la vie ordinaire pouvaient séparer, bien au-delà du cercle premier des électeurs. Et on attendait du côte à côte d'une marge l'observation d'un spectacle ou de l'écoute d'un discours qu'il puisse estomper les différences ressenties dans la vie quotidienne. À ce moment, tout se passait comme si une cité d'égaux pouvait véritablement prendre un visage. Et elle tendait, ces fêtes, ainsi, aux hommes et aux femmes, un miroir dans lequel ils pouvaient voir la mise en abîme de leurs nouvelles conditions de semblables. Et avoir une fonction de compenser d'une certaine façon les différences que les formes quotidiennes de la civilité pouvaient chercher à mettre en œuvre. Une des choses qui est commune aux deux révolutions américaines et françaises, c'est le rapport qu'il y a entre ce monde des semblables, cette sphère de la citoyenneté, cet espace de la réciprocité et le problème de la différenciation économique. Pour caractériser ce monde des semblables, de la réciprocité que j'appellerais plutôt que de la citoyenneté, de la communalité, c'est le terme d'égalité des conditions qui a été employé de façon fameuse à partir du XIXe siècle. Qui a repris, mais sans que la mémoire en ait été marquée, ce terme, comme je l'ai déjà signalé, aux ouvrages classiques du droit public des années du XVIIe siècle, et notamment au grand traité de Charles Loiseau, le traité des ordres et des simples dignités, puisque c'est dans l'introduction de ce traité que l'on voit inscrite cette phrase comme une sorte de préliminaire à toute la réflexion de Loiseau. Nous ne pouvons pas vivre ensemble en égalité de conditions. Voilà ce que dit Loiseau dans l'introduction. Et c'est pour cela qu'il s'intéresse à faire un traité des ordres et des simples dignités, pour montrer comment la société ne peut pas vivre en égalité de conditions, mais qu'elle doit vivre justement dans une compréhension d'une harmonie hiérarchique. Si l'on veut, c'est son expression. En revanche, le terme d'égalité des conditions va devenir célèbre à partir des années 1830, et de façon fameuse, Tocqueville l'utilisera dans l'introduction de la démocratie en Amérique, du premier volume, 1835, pour dire à quel point cela lui semblait résumer l'esprit de l'Amérique. Mais j'ai découvert récemment que Tocqueville avait emprunté ce terme à un des premiers ouvrages, parce qu'il y a eu beaucoup de voyageurs qui ont été aux États-Unis avant Tocqueville. Il y a Michel Chevalier, il y a Mrs. Trollope en Angleterre, il y a Victor Jacquemont, un ami de Stendhal, qui avait fameusement écrit tout un ensemble de lettres sur les mœurs américaines qui sont très lues à l'époque. Et il y a deux livres qui ont été très intéressants. Ce sont les livres publiés par Achille Murat. Achille Murat est le fils du roi de Naples. Et donc, il s'était exilé aux États-Unis. Et exilé aux États-Unis, il a publié deux ouvrages. Un premier ouvrage de 1832 qui s'appelle « Une esquisse morale et politique des États-Unis d'Amérique ». Et en 1833, il publiera un deuxième volume qui aura pour thème « Le régime politique américain ». Vous voyez que la distinction des volumes portant sur les mœurs américaines et le régime politique américain, c'est exactement la distinction qu'adoptera Tocqueville. Et quand vous lisez d'ailleurs « La démocratie en Amérique » de Tocqueville, dans la première page, il est dit « À mesure que j'étudiais la société américaine, je voyais de plus en plus dans l'égalité des conditions le fait générateur dont chaque fait particulier semblait descendre, et je le retrouvais sans cesse devant moi comme un point central où toutes mes observations venaient d'aboutir. » Quand vous lisez le manuscrit de la démocratie en Amérique, voilà ce qu'on fera. On lit « Je fus frappé comme les autres à la vue de cette extrême égalité des conditions. » Donc, Tocqueville a supprimé, si je puis dire, dans l'édition de la démocratie en Amérique, l'idée qu'il pense comme les autres. Et il l'a supprimé parce qu'effectivement, c'est à Achille Murat qu'il a emprunté l'expression d'égalité des conditions qui se trouve dans la conclusion de l'ouvrage de 1832. J'ajoute là d'ailleurs que ce n'est pas le seul cas d'emprunt de Tocqueville à ses contemporains que l'on pourrait souligner. Si l'on regarde par exemple les chapitres parmi les plus connus de la démocratie en Amérique sur les rapports des maîtres et du serviteur, vous trouvez cette idée qui est très développée dans d'autres ouvrages de la même époque. C'est très développé chez Michel Chevalier, c'est très développé chez Murat aussi. Et de la même façon, il y a un ouvrage qui était alors là très directement copié par Tocqueville, c'est l'ouvrage fameux de Portalis, de l'usage et de l'abus de l'esprit philosophique. Dans cet ouvrage de Portalis, le grand juriste, mais ce grand juriste avait au début des années 20 publié ce travail sur l'usage et l'abus de l'esprit philosophique, dans lequel Tocqueville prendra exactement le titre de son fameux chapitre sur les hommes de lettres et la vie intellectuelle. Il sera un recopiage absolument pur et simple de ce texte. Et c'est très intéressant de voir que dans le manuscrit, justement, il reconnaissait un peu sa dette avec d'autres qu'il a délibérément supprimé dans la version définitive. Ces manuscrits, on les possède parce qu'ils se trouvent à la bibliothèque de l'université de Yale. Si effectivement une société de l'égalité est une société des semblables, de la réciprocité et de la citoyenneté, comment considérer la question des différences économiques qui peuvent venir perturber cette relation d'égalité sur ces trois modalités entre les citoyens? Là aussi, on peut repartir d'une formule de Sieyès pour avancer. Sieyès dit « Les inégalités de propriété et d'industrie sont comme des différences d'âge, de sexe et de taille. Elles ne dénaturent pas l'égalité du civisme. » C'est dire que pour Sieyès, le problème est que les différences, et elles seront naturellement multiples parce que le propre de la société moderne est la différenciation et l'hétérogénéité, je le rappelle, puisque c'est une société d'individus, c'est ce qui sera tout le grand thème de la sociologie à partir de la fin du XIXe siècle. On peut dire que l'œuvre de Simmel et l'œuvre de Tarde est une réflexion justement sur ce rapport entre la modernité et la différenciation. Modernité et différenciation, qui expliqueront-ils, est la condition d'une véritable vision de l'égalité. Le problème pour Sieyès est ainsi que ces différences ne s'érigent pas en une contre-nature. Et donc, le véritable critère pour Sieyès, c'est que sont admissibles toutes les différences qui ne produisent pas une contre-nature, c'est-à-dire un ordre artificiel. Il faut donc secondariser ces différences économiques. Comment les secondariser? De trois façons. En les modérant, premièrement, deuxièmement, en les faisant circuler, et troisièmement, en les corrigeant. La limitation de ces différences, eh bien, elle a longtemps été inscrite dans, justement, la vision précapitaliste de l'économie. La vision précapitaliste de l'économie, c'est donc celle d'un échange économique qui n'est qu'une partie de la vie sociale et qui ne cannibalise pas la vie sociale, pourrait-on dire. Deuxièmement, la circulation des différences. La circulation des différences, c'est là que l'on voyait la caractéristique de l'économie moderne. L'économie moderne, même sans être une économie du débordement de la richesse, est une économie qui n'est pas fondée, une économie stagnante, mais qui est une économie de la circulation. C'est ça la grande idée des économistes du XVIIIe, c'est d'opposer une économie de la circulation à une économie de la rente, l'économie de la rente étant justement une économie fixe. Et troisième façon d'éviter que les différences deviennent une contre-nature, alors cette question de la circulation prendra une importance extrêmement importante dans la vision, par exemple, qu'avait un Condorcet. Condorcet disait « L'économie moderne va faire exister des différences, mais ces différences seront tournantes. Elles ne deviendront jamais des conditions. » Donc, ce que l'on voit affirmé par quelqu'un comme Condorcet, c'est une réflexion sur des inégalités de situation qui ne deviennent jamais des inégalités de conditions. Donc, dit-il, l'économie moderne va développer des inégalités de situation, mais qui ne seront jamais des inégalités de conditions, parce qu'elles ne se reproduiront pas, elles ne se fixeront pas, elles seront mobiles. Et ce sera, cela, je dirais, une des choses que constateront l'ensemble des voyageurs en Amérique. C'est que l'Amérique va être le pays considéré comme la circulation des richesses. D'où ce thème fameux de l'argent comme le grand égalisateur. L'argent va être le grand niveleur, parce que l'argent ne fait pas un nivellement en ce sens qu'il met tout le monde au même niveau de richesse, mais qui fait que la richesse est précaire. La richesse circule toujours. En tout cas, c'était l'image que l'on pouvait avoir ou que l'on voulait voir dans l'Amérique de 1830, c'est que si un homme est riche, son petit-fils pourra devenir pauvre. Et que c'est d'ailleurs une chose qui avait beaucoup frappé Beaumont, le compagnon de voyage de Tocqueville, c'est que l'Amérique était à l'époque le pays des banqueroutes. C'est-à-dire, autant il y avait des situations qui pouvaient se développer, mais c'était aussi le pays dans lequel la banqueroute était extrêmement développée, alors qu'elle était considérée comme une sorte de honte sociale de l'autre côté de l'Atlantique. Troisième façon d'éviter que des différences ne s'érigent en contre-nature, c'est de limiter ces différences par la qualité du lien civique et par les formes du lien social. Là aussi, c'est l'Amérique qui donnera l'exemple et c'est ce qui impressionnera le plus les visiteurs. C'est l'esprit d'égalité dans la civilité. Donc l'égalité est dans la civilité égalitaire. Elle est dans le fait que chacun peut se considérer comme également important. Et c'est à travers des tas de petites notations que l'on trouve aussi bien chez Michel Chevalier que chez Achille Murat, que chez Tocqueville, que chez Mrs. Trollope et que chez Victor Jacquemont, qu'on voit comment le voyageur européen percevait cette question de la civilité démocratique. Par exemple, c'est une chose que raconte Michel Chevalier. Il dit qu'une chose qui l'avait frappé, c'est que jamais un tailleur n'acceptait de se rendre au domicile d'un client. Car se rendre au domicile, cela veut dire que c'est en quelque sorte une façon d'allégeance, c'est une façon de considérer qu'il y a un lien de dépendance, comme autrefois on pouvait faire venir chez soi. C'est une caractéristique du monde aristocratique, c'est que bien sûr on n'allait jamais dans une boutique. C'était les fournisseurs qui venaient à soi. Eh bien, l'Amérique, au contraire, c'est le pays où, qui que l'on soit, on va vers son fournisseur. C'est ça qui avait frappé Michel Chevalier. Et donc, que le propre des démocraties, c'est de mettre en place des formes de civilité ou d'égalité morale qui peuvent, sinon servir de correctif à l'inégalité économique, elle-même circulante, du moins en tempérer la perception. Et c'est d'ailleurs une idée qui était très forte aussi chez Rousseau et que l'on trouve dans des belles pages de la Nouvelle Héloïse, c'est que le sentiment d'égalité ne dépend pas simplement des institutions, mais qui doit être inscrit dans les mœurs. Et que comprendre une société, c'est comprendre ce que Tocqueville appellera les habitudes du cœur et ce que Rousseau appelait les convenances, dans ce sens ancien du terme. Et la façon, le fameux chapitre de la Nouvelle Héloïse sur les vendanges est tout à fait typique de, cela. Donc il y avait, en même temps que l'affirmation de ces trois façons de se considérer comme égal, la vision d'une modération, d'une circulation, d'un apprivoisement de ces inégalités qui, à travers des processus de modération, de circulation, de compensation, pouvaient ne pas s'établir en contre-nature. Et évidemment, l'histoire du XIXe siècle, ça va être l'échec de ces modalités de secondarisation. C'est que les inégalités économiques vont s'imposer comme un fait qui va faire que l'on sera obligé de parler à nouveau d'un retour même inédit de l'inégalité des conditions. Et que l'idée d'appartenance à un monde commun sera tout à fait détruite par, disons, le développement du capitalisme. D'où le fait, dans un premier temps, c'est une chose que l'on voit y compris très fortement en Amérique, que la condition du salarié comparée à celle du travailleur indépendant va être assimilée à celle de l'esclave. L'ouvrier payé au salaire dans une fabrique du Massachusetts se considérait comme un esclave. Et donc, il y avait là, je dirais, là, une sorte de retour en arrière de l'idée égalitaire. Et donc, la première crise de l'égalité commence avec ce constat que le modèle révolutionnaire d'une égalité fondée sur la similarité, la réciprocité, la citoyenneté est en quelque sorte mise à mal, est en quelque sorte détruit par cet avènement de la grande industrie avec ce qu'elle comporte de développement aussi du paupérisme. Et donc, dès la semaine prochaine, nous commencerons à voir quelles ont été les réponses et les réactions à cette première crise de l'égalité et quelles sont les formes sociales et politiques qui vont être en quelque sorte convoquées pour redonner ou tenter de redonner figure à l'idée d'égalité dans un monde confronté à l'avènement de la grande industrie et du monde capitaliste. À la semaine prochaine.